and I think even me, when they brought me here, they treat me like a slave.
Quand ils m'ont prise, quand ils m'ont amenée ici, ils m'ont traitée comme une esclave.
When they bring somebody here, they would treat the girl like a slave.
Quand ils prennent une fille, ils la traitent comme une esclave.
Bonjour à tous. C'est une expression qu'on aimerait voir rayée du vocabulaire contemporain, la traite des femmes. En France, on estime qu'il existe entre 20 et 40 000 prostituées. 80% d'entre elles sont victimes de ces réseaux de trafiquants, selon les associations qui travaillent avec elles, mais aussi selon les services de police spécialisés. Elles viennent de Chine, d'Europe de l'Est, d'Afrique. Ce sont des esclaves sexuels qui n'ont jamais envisagé le cauchemar qui les attendait dans cette Europe tant rêvée. Les profits du trafic d'êtres humains ne cessent d'augmenter ces dernières années et ils pourraient même dépasser les sommes générées par les deux principales sources d'argent illégal, à savoir le trafic d'armes et celui de la drogue. Pour Interception, Isabelle Souquet a pris le temps de parler à ces femmes, victimes de ces réseaux. Elles sont originaires du Nigeria, elles sont parvenues à sortir des griffes de leur proxénète. Comment se sont-elles perdues dans cet enfer? Comment en sont-elles sorties? Femmes à vendre, les réseaux de traite en France, c'est un reportage d'Isabelle Souquet, prise de son Clémence Bonfils et Raymond Alboui.
Interception, le magazine de la rédaction.
h à Paris, devant la préfecture de police en face de Notre-Dame. Nous avons rendez-vous avec le patron de la BRP, la brigade de répression du proxénétisme, et un de ses adjoints.
Bonsoir.
Bonsoir. Je vous présente le commandant Bruno Fournier.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Isabelle et Raymond.
Bonsoir.
On va vous accompagner ce soir.
Avec grand plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer le véhicule qui est au parking et puis commencer notre maraude par le bois de Vincennes.
Entendu.
Nous l'avions évoqué.
Je vais le prendre par la porte de Vincennes. On va aller sur Pyramide direct.
Par le parc floral et. Nous sommes derrière le fort de Vincennes et nous allons entrer dans le bois par le parc floral. Et très rapidement, on va voir si cette nuit est une nuit avec ou pas. Puisque très rapidement, on va voir si des camionnettes sont présentes. Et si des jeunes femmes sont là sur la voie publique. Alors là, vous avez vu une voiture qui tournait devant nous sur ce parking. C'est le parking du parc floral. C'est un client potentiel qui sait qu'ici, il peut trouver des camionnettes. Parce qu'il n'a aucune raison de stationner à 21h30 sur le parking du parc floral. Et c'est un secteur où vous avez de temps en temps des camionnettes. Voilà, donc là nous sommes sur la route de la Pyramide qui est, bah, comme vous allez pouvoir le voir, un spot où vous commencez à voir des Nigérianes là, qui nous font des signes, des camionnettes, des piétonnes, des camionnettes, qui est vraiment un des spots là avec une densité, vous pouvez le constater, de camionnettes assez importante, une assez forte présence là. Hein. Là, il y en avait une qui c'est très très jeune. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, Bruno, c'est avec le pantalon rouge, là.
On peut aller voir?
Ouais, on peut aller voir.
Il y a une voiture qui vient livrer le café, je trouve ça un petit
peu... On peut aller voir. Là, on vient de s'arrêter parce qu'on a vu une prostituée qui avait l'air très très jeune. On va aller faire un contrôle, peut-être, quand même. Hein.
Le commissaire Hirschmann et le commandant Fournier sont donc descendus de la voiture pour aller à la rencontre d'une jeune femme précisément que nous avons vue en passant derrière une camionnette, une jeune femme qui avait l'air très très jeune, peut-être mineure, et en dépit du fait qu'il ne devait pas intervenir précisément ce soir, Ils ont voulu absolument aller faire un contrôle. Il s'agit de pas laisser une toute jeune fille comme ça traîner si tard au bois de Vincennes.
Alors, on vient de procéder à un contrôle. Donc, bon, c'est vrai que la fille fait très jeune, très menue. C'est difficile de déterminer son âge sans un examen osseux. Donc on a pris une photo, on a relevé les éléments d'identité qu'elle a pu nous présenter. Elle prétend avoir 20 ans. Ça me paraît peu sûr.
Vous disiez que vous essayiez de ne pas intervenir, de ne pas vous montrer. Là, dans un cas comme ça, il faut vraiment que vous vous arrêtiez ?
Ah, c'est un cas de force majeure. Si c'est une mineure qui est dehors, on peut pas la laisser, dehors. Donc voilà.
Après, et là, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Si vraiment elle est avérée mineure, après on la dépose à la brigade des mineurs, nos collègues, qui la placent. En fait, le procureur peut prendre une ordonnance provisoire de placement. Et après, on la remet aux services sociaux et aux foyers des associations qui s'en occupent.
Mais le problème, c'est qu'effectivement, elle a l'air mineure. Elle va pas vous le dire si elle l'est.
Non, effectivement. Mais après, on pourra faire des recoupements si on la voit, etc. Ça peut être intéressant de savoir que effectivement, il y a quelqu'un ici qui peut être mineure.
Elle était de quelle nationalité ?
Nigériane. Comme la quasi-majorité, la quasi-totalité des prostituées africaines sur ce périmètre-là.
Donc là, on continue cette maraude dans le bois et les camions continuent de se succéder. Alors, les uns après les autres.
Les camions continuent de se succéder. Donc après l'avenue de la Pyramide, on entre dans la partie de l'hippodrome, où vous avez également une présence et une densité assez importante. On va contourner l'hippodrome et aller dans cette fameuse Dark Road que j'évoquais tout à l'heure, qui est cette rue sans éclairage public, où vous verrez également une présence assez conséquente de camionnettes. Là, vous allez voir aussi la noria des voitures qui tournent dans tout ce secteur, qui s'arrêtent à hauteur des filles pour les questionner sur les tarifs pratiqués, sur les prestations pratiquées. C'est comme ça toute la nuit. Et une partie de l'après-midi également. Vous avez eu un échange en Pidgin English, qui est le dialecte, un peu le créole anglais que parlent les Nigérianes. Un client qui était en train de négocier. Alors voilà la fameuse Dark Road. Donc là, elle est encore un peu illuminée, mais vous allez voir que très vite, on entre dans une zone plus sombre, plus obscure, avec cette enfilade de camionnettes.
Qui font de temps en temps un appel de phare.
Façon aussi de racoler les clients.
Alors à l'avant de chaque camionnette, il y a comme une loupiote, comme une lanterne. Voilà, c'est façon de dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accueillir un client, ou est-ce que c'est aussi une manière de pouvoir se montrer, puisque c'est une mini-vitrine peut-être ?
Ben, c'est exactement ça. C'est une façon de dire que la prostituée travaille là où les prostituées, puisque vous pouvez avoir plusieurs prostituées pour une seule camionnette. On parlait des conditions sanitaires, ça fait partie effectivement des difficultés que vivent ces femmes au quotidien. Hein. C'est d'être exposé à la pluie, au vent, au froid, et sans avoir le choix de venir travailler ou pas, puisqu'elles ont ces dettes à payer et qui font pendant des mois, voire plusieurs années, elles vont devoir, jour et nuit, venir travailler avec parfois une forme d'abattage, 10 clients, 12 clients par jour, pour un prix moyen de passe qui va être très bas. Là, on est sur des prix de passe de l'ordre de 20, 30 à 50 euros grand maximum. Je vous laisse imaginer le nombre de prestations que vous devez réaliser pour rembourser une dette qui peut être de 60 à 70 000 euros. C'est très lourd.
Cette dette énorme, les jeunes Nigérianes l'ont contractée auprès de femmes qu'elles appellent leur madame. Ce sont aussi des prostituées, passées elles-mêmes par l'esclavage du réseau et qui deviennent proxénètes. Les madames font à leur tour venir des filles en France, des filles plus jeunes qu'elles font travailler pour elles pour rembourser plus vite leurs propres dettes.
Voilà, c'est là, c'est dans cette maison. Alors c'est dans un quartier plutôt excentré de Paris que se trouve le foyer qui recueille des jeunes femmes exfiltrées des réseaux de traite et d'esclavage sexuel. Et pour d'évidentes raisons de sécurité, il n'y a ni plaque ni nom sur la porte, juste une sonnette.
Bonjour, je m'appelle, je viens voir Yolanda.
Il est vide là. Ben voilà, donc vous c'est dans la salle sympa sur le comble.
La salle des ateliers.
On s'était dit ça.
Absolument. Voilà. Ah ben alors on y va.
Allez-y.
Vous êtes passé devant.
Dans l'espace devant. Chioma.
On va aller la chercher.
Alors, je m'appelle Yolanda Gutiérrez, je suis directrice du foyer à Abusy. Je connais cette problématique depuis pas mal de temps et voilà, je suis ravie de travailler aujourd'hui ici.
Comment vous le définiriez ce foyer ? C'est un foyer d'accueil ? C'est un foyer de transition ?
Alors tout d'abord, et notre mission, c'est d'être un foyer de mise à l'abri. Et au début, c'était vraiment une mise à l'abri avec tout ce qui veut dire travail dans l'observation, dans l'attention à la personne, et qu'elle se sente vraiment protégée.
Vous parliez beaucoup de mise à l'abri, c'est un foyer de mise à l'abri. On a vu en arrivant devant votre porte qu'il n'y avait pas de plaque, pas de nom, rien. Vous sentez qu'il y a vraiment un danger quand même autour de vous ?
On pense, de toute façon, qui cherche trouve. Donc on ne va pas dire que c'est un foyer complètement inconnu de la part de... Mais je trouve, pour le moment, nous, on n'a pas senti un danger particulier. Les réseaux, heureusement, ne sont pas venus frapper à la porte pour récupérer des femmes ou pas. On pense qu'ils doivent savoir où on est, parce que nous, même si on dit aux femmes, voilà, vous gardez l'adresse secrète, vous gardez les informations pour vous. Mais on n'est pas à l'abri qu'une femme pas. On ne l'est pas. Donc voilà, après nous, la mise en sécurité, c'est vraiment par rapport à ces femmes-là qui ont besoin d'un lieu de protection où elles savent qu'on ne cherche pas à empêcher les femmes de sortir ni les femmes d'entrer. On dit que c'est une mise à l'abri, un foyer sécurisant et pas un foyer sécurisé.
En même temps, vous dites qu'il y a des moments où on les envoie ailleurs, on les met au vert.
Oui, parce que ça peut arriver, ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui attendaient les filles pas loin. Jamais à la porte, on fait attention à ça, jamais à la porte, mais les filles nous ont dit, ça m'est arrivé de croiser quelqu'un de mon réseau qui me cherchait et qui m'attendait au point B.
Et là, il y a eu certains cas suffisamment pressants que vous vous disiez, oui. Elle, il faut que je l'envoie un peu à la campagne.
Oui. Mais c'est même pas parce que nous, on a vu les personnes, c'est elle-même qui nous l'a dit, on m'a dit qu'on me cherche, telle personne a dit que je suis là, il faut que je parte d'ici.
Alors là, on va arriver au grenier, c'est ça ?
C'est ça, donc là, c'est la pièce inattendue. On monte par des escaliers très très étroites, on dirait pas. C'est pas très en bas comme on a ici. C'est toujours l'effet surprise. Et on rentre dans ces grands espaces qui invitent à la détente. Il y a une socio-esthéticienne qui vient toutes les semaines. Donc il fait des soins, mais c'est vraiment des soins de détente auprès des femmes, trois quarts d'heure chacune. Et voilà, c'est vrai que nous, on a senti une différence aussi par rapport à ces femmes-là. Elles attendent cet atelier toutes les semaines.
Et vous dites que les bénéfices sont très évidents. Quels sont-ils, par exemple ?
C'est-à-dire
de reprendre confiance davantage en soi ou...
Déjà, c'est confiance en soi, confiance à l'autre. C'est pas facile de se mettre avec le parcours qu'elles ont eu, même à niveau tactile, se laisser toucher par quelqu'un d'autre dans un environnement complètement différent. Nous, on a eu une différence entre les premières séances où elles n'arrivaient pas à fermer les yeux. Là, elles ferment les yeux. Avant, elle ne faisait pas du tout. Il fallait qu'elle voie qu'est-ce qu'elle faisait la dame, qu'est-ce qu'elle cherchait, où est-ce qu'elle allait toucher. Maintenant, pas du tout. Elle se laisse aller. Donc voilà, il y a une vraie différence et un vrai bénéfice pour elle. On le voit très bien.
Donc en fait, c'est tout à fait en haut. Hein.
Oui, le dernier étage.
Ça ne ressemble pas du tout à un foyer ici, c'est vraiment une maison.
Non, c'est vraiment une maison. En fait, l'objectif, c'est de rester sur l'esprit d'une maison.
Et vous avez gardé toutes les pièces à l'ancienne, c'est ça?
C'est ça. La nouveauté, c'est donc la nouvelle salle thérapeutique qui a été aménagée. On l'utilise vraiment pour des séances où les femmes se trouvent... Voilà, ça c'est le nouvel espace. Donc les femmes se retrouvent ici.
Bonjour. My name is Flora. I'm from Nigeria.
Je m'appelle Flora, je viens du Nigeria.
The story that brought me to France is
l'histoire de mon arrivée, c'est une femme en fait qui m'a amenée en France pour me prostituer.
Human traffic.
Une trafiquante de femmes.
But the way she approached to me in Africa, in Nigeria, is not the way.
Ce qu'elle m'a dit au Nigeria, c'est très différent de ce que j'ai vu ici en Europe.
So, she claimed to be a good person to me.
Elle prétendait me vouloir du bien, mais finalement, ce n'était pas vrai du tout.
That is what she's doing to me now.
First of all, she didn't say.
D'abord, elle ne vous a pas dit ce que vous feriez en France. Quelle histoire elle vous a raconté?
She told me what she's doing.
Elle m'a dit ce qu'elle faisait, qu'elle se prostituait avant que je vienne. Mais j'étais dans une telle situation au Nigeria que je n'avais pas d'autre choix que de venir.
Alors vous avez accepté de vous prostituer en France ?
Oui.
Il a fallu que vous payiez avant de venir ? Vous avez une dette ?
Oui, elle m'a demandé de lui payer 50 000. C'était un accord avec elle.
Ça fait combien en euros, plus ou moins ?
50 000 euros. Quand je suis allée au temple pour jurer sur ma dette, c'était sur ce montant. Mais je ne me suis pas inquiétée, c'est exactement la somme pour laquelle j'ai fait ce serment. 50 000 euros.
Et il vous a fallu faire un serment.
J'ai fait le serment, oui, je suis allée dans un endroit spécial pour le jurer.
Une église, quelque chose comme ça?
Ce n'était pas une église, mais un mausolée. Je suis allée chez un médecin traditionnel.
Une river.
Il y avait une rivière.
So they bathed me.
Alors ils m'ont mise dans l'eau.
The lady that took me to the place.
Puis la madame qui m'avait emmenée, elle a pris un poulet vivant.
The heart of the live chicken.
Elle a sorti le cœur du poulet vivant et m'a demandé de jurer là-dessus.
Divided it into two.
Après ça, elle l'a partagé en deux et m'en a fait manger cru. Elle m'a donné de l'eau et une Bible. J'ai dû jurer sur tout ça.
Vous avez dû jurer aussi sur la Bible?
Oui.
That I will not run away,
que je ne m'enfuirai pas, que je ne ferai pas de problème, que je n'appellerai pas la police. Si les gens qui allaient s'occuper de moi, comme la madame, faisaient quelque chose contre moi, je ne devais pas le dire à la police ni à personne qui pourrait m'aider. Sinon, le jour où j'ouvrirais ma bouche pour parler à quelqu'un, ma langue tomberait. Ma langue deviendrait très longue et mes parties intimes pourriraient et sentiraient mauvais. Plus personne ne voudrait se marier avec moi. Alors j'ai dit au médecin traditionnel que rien de cela n'arriverait parce que je respecterais le serment. Je m'appelle Beauty et je viens du Nigeria. Je suis venue par la route, pas en avion.
Combien de temps ça a pris?
5 à 6 mois. Quand on commence le voyage depuis le Nigeria, on prend un bus.
You take a bus from Nigeria
jusqu'à Abuja.
From Abuja to Sokoto.
Puis d'Abuja à Sokoto.
Then you have to cross.
Et puis il faut traverser la frontière nigériane au milieu de la nuit. Vers 1h, 2h du matin.
In the night, midnight. Let me just say midnight. One. So after crossing, because that
c'est un endroit très dangereux.
Danger.
Pour traverser, il faut prendre un vélo. Et puis une fois que vous avez traversé la frontière nigériane, on va vous appeler à nouveau.
Ok. You guys are going to Libya, but
vous allez en Libye en passant par le Niger.
Pass through Niger and et
tellement de pays avant d'arriver à Saba.
Saba,
c'est en Libye. À Saba, on traverse le désert pour arriver à Tripoli.
Before you get to Tripoli.
Combien de temps pour traverser le désert?
Pour le désert, il nous a fallu 5 jours. Mais pour certains, ça prend 10 jours.
Comment est-ce que vous êtes débrouillé? Il fallait trouver de quoi manger, de quoi boire, dormir dans un endroit un peu sûr.
Oui, au début, il faut prendre de l'eau, des biscuits.
So you manage to survive,
se débrouiller pour survivre, on ne peut pas se laver.
It's really cold.
La nuit, il fait très froid, il faut dormir sur le sable.
In the morning, when they wake you,
et le matin, on vous réveille en disant « Ok, on y va ». Et si vous ne vous dépêchez pas, ils peuvent très bien vous laisser là.
Vous voulez dire qu'ils pourraient vous laisser dans le désert?
Oui.
C'est arrivé?
Oui.
Vous avez vu des gens qu'on a laissés dans le désert?
Oui.
Ils
les plantent là, ils disent que ce n'est pas vraiment leur problème. Eux, les passeurs, ils ont déjà été payés. Alors, il peut se passer n'importe quoi, parce qu'après tout, c'est vous qui voulez aller en Europe. Alors, vous n'avez qu'à prendre le risque. Et puis après, vous arrivez à Tripoli, où là, il va falloir prendre la mer.
C'était un grand bateau, vous étiez nombreux à bord?
Non, c'est juste un petit bateau. Ils les appellent des lampa lampa.
Combien vous étiez à bord?
Une centaine. Peut-être 200. On était assis comme des sardines. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, ils n'en ont vraiment rien à faire. Après tout, ils ont récupéré leur argent et fait leur boulot. Quand on est parti vers l'Italie, ils ont installé un GPS, et ce GPS, quelqu'un va le surveiller, va vérifier que la route est la bonne. Et une autre personne va piloter. Et à cette personne, ils lui ont donné le numéro des secours maritimes. Alors quand on arrive près des côtes italiennes, il faut qu'on appelle les secours. Moi, à ce moment-là, je perdais ma force. J'étais à bout de force. Tout le monde était debout, moi j'étais assise au fond du bateau, épuisée. Parce que dans le bateau, il n'y a rien à manger, rien à boire, on peut juste prier. Voilà comment on est arrivé en Italie.
Oh, tu m'as timo, oh, tu m'as timo, mi. Ojumati ma morire o Ojumati ma Ojumati ma mi Nilehi o Ojumati ma morire o.
Alors là pour la cuisine, je suis au bout de l'été parce qu'il y a une des filles qui a pris un gros chagrin. Et donc elle est en train de prendre un thé avec la surveillante de nuit. Donc j'ai pas envie de les embêter.
Non, on va pas les embêter.
Si, voilà.
Évidemment.
Si elle est dans son chagrin.
Pourquoi il faut qu'il y ait une surveillante de nuit? C'est très important.
Ah oui, les surveillants de nuit, c'est essentiel. Souvent, on nous pose la question et on nous demande pourquoi vous n'avez pas des caméras ou des... Nous, le danger, c'est pas toujours un danger qui vient de l'extérieur. Le danger vient de l'intérieur, vient des cauchemars qu'elles ont, ces femmes-là, de l'apport du passage à l'acte. Ça peut passer de la gestion des conflits, parce que voilà, la nuit, tout se cristallise. Le jour, elles s'isolent dans leur chambre où elles peuvent sortir. La nuit, elles sont dans la maison, elles partagent les chambres. Il y a des choses qui peuvent sortir pendant ce moment-là. Donc c'est important d'avoir une personne qui soit là pour répondre aux besoins. C'est une mise à l'abri, mais c'est pas pour rien. La présence, c'est pas pour rien. Ce n'est pas une caméra qui va nous assurer la sécurité. Sortir par la cour.
Ojumati ma morire o.
Les jeunes femmes ne restent qu'un temps au foyer. Certaines sont rattrapées par les réseaux, d'autres parviennent à leur échapper, définitivement exfiltrées par la police, les associations et l'aide d'un discret réseau de familles d'accueil un peu partout en France. Il y a aussi des jeunes femmes qui choisissent de disparaître pendant des années pour parvenir à se faire oublier. Ella était encore dans un réseau il y a 2 ans. Aujourd'hui, cette jolie jeune femme rieuse et volontaire a entamé une nouvelle vie loin de Paris.
Je m'appelle Ella, j'ai 20 ans, je suis nigérienne et je suis en France depuis 2 ans et demi.
Dans quelles circonstances vous avez quitté le Nigeria ?
Déjà, quand j'étais au Nigeria, j'étais une étudiante.
Qu'est-ce que c'était comme étude ?
C'est pour commerce, de travailler dans une banque, mais je suis en commerce en fait.
Une banque commerciale.
Voilà, une banque commerciale. J'ai fait ça pendant 2 ans. Il m'avait resté quelques années avant fini. J'ai quitté le Nigeria. Je suis venu ici, c'était à cause de ma tante. Parce qu'elle aussi, elle connaît des gens ici, en France. Et du coup, moi-même, j'ai même parlé avec la dame qui habite ici en France. Elle était tout à fait d'accord, elle m'avait tout expliqué. Elle ne m'a pas parlé que c'était l'histoire du prostitué ou tout ça. Il n'y avait vraiment pas ça dedans.
Et donc, en fait, quand elle vous a parlé de ça, elle vous a dit, vous allez venir travailler en France, dans le même domaine, dans la banque aussi.
Voilà, dans le même domaine. Mais après, elle m'a dit, d'abord, il faut faire des études. Apprendre la langue française et tout. Et après tout ça, vous allez travailler. Mais au début, peut-être vous allez trouver. Elle m'a dit que je vais aller trouver un boulot. Peut-être travailler dans un restaurant ou des choses comme ça pour commencer. Et du coup, j'étais tout à fait d'accord. Parce que moi, j'étais au Nigeria, j'avais une vie normale. J'étais à l'école, j'ai mes parents qui étaient toujours là pour moi, mes familles et tout. Donc, on n'était pas pauvres non plus. Parce que déjà, quand on est au Nigeria, en fait, le truc, c'est qu'on sait vraiment pas c'est qui cette dame, en fait. Ils te parlent au téléphone, gentiment, calme, voilà, ça va aller, t'inquiète pas, et toi, gentiment. Mais dès que tu arrives ici, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne, en fait. Ils ont changé leur caractère. C'est après 2 jours, 3 jours, elle va te dire, OK, voilà, t'es ici déjà, t'es en Europe, je vais te montrer où tu vas travailler. Nous, on pense que voilà, on va vraiment travailler, on va aller apprendre une langue et tout, on est contente et tout. Mais juste arriver, c'est dans la rue.
Et alors, vous arrivez là et vous vous dites, qu'est-ce que je fais?
On arrive là, il y a plein de filles déjà là-bas, parce que j'arrive pas à croire que voilà, c'est vraiment ça, en fait. Et on entend des mots, des choses comme ça, prostituées en Europe et tout, on sait vraiment pas qu'est-ce que c'est la prostituée, en fait, voilà. Et c'est là qu'ils vont te dire, voilà, bienvenue, c'est ici, tu vas travailler. Il y a même des filles qui vont être battues avec toi, qui vont dire, ouais, tu pourras rester ici, c'est pas ta place, maintenant. Quand je me suis arrivé, elle m'a dit, voilà, c'est ici. Déjà, j'étais choqué. Mais qu'est-ce que j'ai fou ici? C'est quoi ça? Je suis pas habitué de cette vie. C'est pas ma vie, ça. Avant, j'étais à l'école. Et là, je vais t'amener dans la rue en train de faire une prostitution, quoi. Elle va te dire, voilà, t'es obligé de faire. T'as pas besoin de... Mais elle va te crier sur toi. Elle va dire, tu peux pas me poser des questions parce que je suis ta madame et t'es obligé de m'obéir. Si elle ne fait pas, on va te tuer, on va tuer ta famille, tu dois me payer, des choses comme ça. Et surtout, on est obligé parce qu'on ne sait même pas où on va y aller, en fait. Qu'on n'est pas, même pas les polices, on ne connaît pas où le commissariat se trouve. Il n'y a personne, tu ne connais personne. Donc, tu es vraiment au milieu dans la forêt où tu ne connais personne. Donc, tu es obligé de faire ce qui est libre à ce moment.
Et donc, vous avez été obligé de le faire?
Ouais, j'étais obligé de commencer. J'ai pas le choix, franchement. Je connais pas tout ce qui passe. Vraiment, j'ai eu mal à comprendre, en fait. Parce que j'arrive pas, parce que même quand des clients, ils viennent, déjà, ils parlent français, pas anglais. Mais par contre, avant partir de la maison, la dame, il va juste te dire, voilà, comment on dit, how much, ça veut dire, c'est combien. et il va te donner des préservatifs déjà. Voilà, il va te dire juste ça en fait. Il te dit combien, comment on dit c'est combien. Il va te dire comment on dit 20 euros ou 50 euros, que ça, il va te dire ça. Mais les clients, ils savent qu'on est nouveau en fait. On est nouveau et ben, il y en a qui va te il va travailler avec toi, il va te payer gentiment. Ben, il y en a qui va travailler avec toi, il ne te paye pas parce que déjà, tu es nouveau et il sait que tu ne sais pas parler de langue, tu ne connais rien en fait. Donc, il va juste coucher avec toi comme ça, il te paye pas. Et même si tu arrives à la maison, il n'y a pas l'argent, la dame elle va crier sur toi, il va te frapper et tout.
Combien de temps vous aurez passé comme ça dans les rues et au bois depuis que vous êtes arrivé?
Moi, j'ai passé à peu près 10 mois ou 9 mois dans la rue. Pas d'être un prostituée, c'est pas une vie pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est pas un rêve, j'arrive pas, je peux pas faire. Bah, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de mes parents non plus. Parce qu'on est tous victimes. Moi, je suis une victime de cette... De tout ça, et à mes parents aussi. Ma tante, ils nous avaient menti, ils nous avaient trahi. Du coup, le problème maintenant là-bas, c'est que les familles de la dame, maintenant, ils font des problèmes avec ma tante, parce que c'est elle qui m'avait présenté. Et du coup, maintenant, ils ont dit que voilà, c'est elle qui doit payer.
Vous, vous avez arrêté de payer, vous ne paierez plus jamais rien.
Jamais.
Et maintenant, vous dites... si c'est ma tante qui paye, c'est son problème. Je ne veux plus jamais rien entendre. Voilà.
J'ai pas envie de savoir comment elle va faire pour payer parce que déjà, c'est grand, 50 000 euros ou 55 000 euros. J'ai payé à peu près 20 000 euros. Et,
vous avez payé déjà 20 000
euros? J'avais payé 20 000 euros quand j'étais dans la rue. Pour moi, je me suis dit, ok, j'ai payé 20 000 euros déjà. Ça, c'est bon, ça suffit. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, bon, laisse tomber. Je sais pas s'ils vont, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ma tante, comment elle va payer le reste. Il reste 35 000 euros à peu près. Mais je sais pas comment elle va faire payer, mais elle est dans la merde, c'est elle qui l'a commencé, il faut qu'elle trouve une solution. Je sais pas comment elle fait. Ça me regarde plus parce que je parle plus avec elle, je sais pas où elle est et je parle plus à personne. J'ai fait ma vie comme il faut, quoi. Je sais qu'il y aura rien qui va m'arriver en France parce que je suis en sécurité. Mais qu'est-ce qui me manque, c'est que c'est mes familles. Je sais qu'ils n'ont pas en sécurité comme je suis. Et ça me fait mal, voilà.
Merci beaucoup, Elie.
Je vous en prie.
Nous sommes au centre des Amandiers à Paris et aujourd'hui, dans une salle prêtée pour l'occasion, il y a 6 jeunes femmes nigérianes. Toutes sont d'anciennes victimes de la traite. Elles ont été prostituées de force pendant des semaines ou des mois. L'association qui les a prises en charge a à un moment organisé des ateliers de théâtre et leurs improvisations sont devenues finalement un spectacle Nigerian Drama. Un spectacle qui a été filmé et aujourd'hui, elles viennent voir pour la première fois leur spectacle, leur histoire.
Fake certificates.
Sur le conseil de sa madame, une jeune femme vient acheter des documents à un avocat véreux pour composer son dossier de demande d'asile à l'OFPRA. Personnage, l'avocate. La jeune fille récemment arrivée en France. Une amie de la jeune femme qui l'accompagne. Et la madame qui arrive en retard.
Bonjour. Vous êtes Julia?
Oui, yes.
Enchantée, entrez. Si vous voulez bien attendre dans le couloir, s'il vous plaît.
She's my friend, because I don't speak French.
Je parle pas français.
Mais je parle anglais, il n'y a pas de problème. Entrez.
Please, can you let her to follow me?
Je veux qu'elle reste.
C'est un rendez-vous confidentiel.
S'il vous plaît.
Ok. Vous avez l'argent?
You come with the money?
Ça, what?
You say you come with the money?
Yes.
Oui, oui, oui.
Bon, allez, allez. D'accord. On y va. Voilà votre acte de naissance et le récit pour l'OFPRA. Vous lisez, vous signez, vous datez.
Oui. Ok, on est à Khadija.
Tu t'appelles Joy?
No, my name is Julia.
Mais non, je m'appelle Julia.
You live in Jos?
T'es née à Jos?
No, I don't live in Jos.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème?
You have Boko Haram?
T'as des problèmes avec Boko Haram?
Non.
Non,
mais... Bien sûr, son nom, non, c'est Khadija maintenant. Maintenant, elle s'appelle Khadija. Elle a de gros problèmes avec Boko Haram et elle est musulmane.
Non, je ne signe pas ça, moi.
Bon, écoutez, vous avez apporté l'argent. Si vous ne voulez pas signer, ce n'est pas un problème. Vous me payez. Hein. Vous me devez 500 euros.
I have 200.
C'est 200 euros.
Quoi? 200?
Oui.
Non, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi?
C'est un 500. Désolé, le problème est trop. J'ai un peu le tap. Pardon.
Écoutez, il y a un petit problème.
Ah oui?
Elle ne veut pas payer, elle a apporté 200 euros. Ça ne va pas, hein?
Ah bon? Mais j'ai dit à la maison 500 euros. So, you don't want to sign?
Tu ne veux pas signer?
You don't want to sign? Please. I said sign, tout de suite.
Please.
Sign!
Okay.
Don't take the paper.
Bah moi je suis Clément Siboni, je suis acteur et metteur en scène en l'occurrence.
C'est une drôle de rencontre avec ces femmes.
Ouais, je sais pas si c'est une drôle de rencontre, mais en tout cas c'est une rencontre, ça c'est sûr. Ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble. Moi, c'est vrai, je les ai rencontrés dans le cadre de l'écriture de mon scénario, puisque le personnage principal féminin du scénario de long métrage que j'écris est une prostituée nigériane. On a très rapidement pris la décision de faire des ateliers de théâtre pour essayer de recueillir cette parole, pour nous aider, nous, à écrire le scénario et aussi pour essayer de faire un échange et que ça leur amène, elles aussi, quelque chose. Donc au début, c'était vraiment... Enfin, ça a toujours été, en fait, un aller-retour entre elles et nous. On a tous un intérêt à faire ce spectacle. Nous, maintenant, on est une troupe, en fait. On est devenu une troupe. C'est là où c'est vrai que c'est une drôle de rencontre. Parce que je m'attendais pas déjà à faire du théâtre en tant que metteur en scène. Et encore moins avec cette nouvelle troupe.
It's a life story. It's a reality. So that day, we moved. That night was a disaster night. So the next morning,
la nuit du désastre, on quitte le camp de rebelles.
And 2 hours later,
2 heures plus tard,
I start seeing passports.
Je vois des passeports.
But I'm lost. I'm confused.
Mais je suis perdue, je ne comprends
because
pas.
There is no office in the desert.
Mais il n'y a pas de bureau de passeport.
Nobody to ask.
Il n'y a personne à qui demander
how
pourquoi.
Can passport get to this place?
Pourquoi il y a des passeports partout.
The journey continue.
Par terre. Le voyage continue.
Then something happened.
Il se passe un truc.
One of the passengers died.
Un des passagers est mort.
So, and they stopped the whole 4-Land Cruiser.
Donc on a arrêté la Jeep.
That somebody died. So they bring him down from the car.
On sort le gars.
A little tree in the desert, and they lie him down there.
On le met à côté d'un petit arbuste.
So they bring his bag,
avec ses petites affaires.
And they put hand for his pocket,
et dans sa poche,
and they put the passport on
ils sortent son passeport et ils le posent sur
and
sa poitrine.
Say, let's go.
Et ils disent, on y va.
And then I said, but you can't bury him.
Je dis, mais quoi? Il faut
and
l'enterrer.
The conductor said,
et le chauffeur a dit,
come, let's go. If you die,
on y va. Si toi aussi tu meurs ici dans le désert, c'est comme ça. On te pose par
so
terre. Je dis quoi? Ce que je vois, tous ces passeports par terre, c'est des gens qui sont morts dans le désert. Il dit oui, c'est ça.
Two or one man will be coming to me. Just bless me with money.
Moi, on m'avait juste parlé d'un homme ou deux qui s'occuperaient de moi, qui me gâteraient avec leur argent et je pourrais vivre comme ça. Je me suis dit, ah waouh, si c'est comme ça, c'est ok. Peut-être qu'un de ces hommes va m'épouser ou un blanc et j'aurai des enfants. Mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai payé 10 000 à ma madame. Il a fallu que je couche avec plein d'hommes. J'étais battue et tout ça. Alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'améliorer ma vie. Je vaux mieux que ce job. Et si je dois le continuer, je préfère mourir. Mais j'ai prêté un serment devant ce truc, Ayelala, et si je finis pas de payer, je ne mettrai plus un pied en Afrique. Parce que dès l'instant où je mettrai un pied en Afrique, c'est sûr, je vais mourir. C'est à cause de ce vœu que j'ai fait. Mais je suis sûre d'une chose, rien ne me fera retourner en Afrique. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'en prendre à ma famille. Je veux rien savoir. Et rien ne m'arrivera si je ne rentre pas. Et je gagnerai plus jamais ma vie en travaillant dans la rue.
Sister, prepare for your freedom.
Freedom is getting close these days.
Get ready, my sisters, and prepare for your freedom.
Freedom is getting close these days.
Please, sister, make yourself available and get used to it. If you believe, we can move the mountains. To achieve something, something so great.
within your soul. Freedom is getting close. Get ready, sister, prepare for your freedom.
Freedom is getting close.
Femmes à vendre, les réseaux de traite en France, un reportage signé Isabelle Souquet avec une prise de son assurée par Clémence Bonfils et Raymond Albouy. Pour prolonger ce reportage et évidemment tous ces témoignages, Isabelle Souquet est allée interroger Yves Charpenel. Il est premier avocat à la Cour de cassation, mais aussi le président de la Fondation CEL, association qui lutte contre la traite des femmes.
La prostitution en France a complètement changé. Depuis 20 ans, elle est aujourd'hui à plus de 80%, hein, c'est les chiffres des spécialistes, dirigée par des réseaux étrangers de crimes organisés. Aujourd'hui en France, sur un chiffre estimé d'environ 30 000 personnes prostituées, on pense qu'il y en a plus de 25 000 qui sont en réalité tenues par des réseaux. Alors ces réseaux, ce sont des réseaux extrêmement puissants, qui sont nécessairement transnationaux. On exploite les gens les plus vulnérables, et qui serait plus vulnérable que des étrangers qui ne parlent pas la langue, qui sont tenus très fortement pour des contraintes économiques quand c'est pas physique, et vous avez surtout de l'argent, énormément d'argent. Chacune de ces victimes en fait rapporte de l'argent, elle en gagne pratiquement pas puisque l'argent va être donné à son organisation de proxénètes, en fait, ce sont des trafiquants, hein, tout simplement. Ils s'appellent des managers, d'ailleurs, parce que pour eux, c'est une entreprise. On vend des femmes et des enfants, mais c'est une entreprise. L'essentiel, c'est quand même, on parle là d'environ 150 000 euros net rapportés au réseau par jeune femme vendue. Vous multipliez par les 30 000 qu'on a recensés, et on parle là de 3 à 4 milliards d'euros de bénéfices criminels sur cette exploitation en 2016. Aujourd'hui, on pense que la traite des êtres humains est largement entre la deuxième et la troisième place des profits les plus rentables, le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes étant légèrement devant. En fait, ce sont la plupart du temps les mêmes trafiquants. Il y a des autoroutes du crime, on fait venir de la drogue, des femmes ou des armes absolument de la même manière, et on les revend, pas aux mêmes clients, mais selon des procédés comparables. Et donc vous avez aujourd'hui en fait une sorte de phénomène criminel où les frontières n'existent plus, ni les frontières des États, ni les frontières du crime.
Est-ce qu'au fil de vos voyages et de vos rencontres, vous avez pu voir une façon commune de s'accaparer ces êtres humains? C'est généralement par la ruse, par la force, par la contrainte?
Alors, c'est pas compliqué. Si vous êtes trafiquant, allez chercher les personnes les plus vulnérables, c'est celles qui se défendent le moins, qui sont, il faut le dire, pour la plupart du temps vendues par leur propre clan ou famille, pour des raisons économiques. Partout où on va, on retrouve le même schéma. La personne qui va partir être prostituée ne le sait pas toujours. On la trompe. Je pense notamment à ces jeunes femmes marocaines qui sont recrutées par Daesh pour être en principe des femmes qui vont travailler en France et qui en fait vont directement en Syrie où elles sont vendues aux combattants et ensuite à des réseaux de prostitution. C'est essentiellement les communautés minoritaires les plus vulnérables qui sont d'abord concernées. En Moyen-Orient, ce sont les communautés yézidis, par exemple. En Europe, ce sont les Roms. Au Canada, ce sont les Inuits, et ainsi de suite. Ces sujets-là, en fait, deviennent de vrais sujets quand on s'aperçoit que les personnes prostituées, en réalité, sont des produits de groupes de crimes organisés. On les connaît, les groupes de crimes organisés. Aujourd'hui, vous avez les groupes terroristes, comme Daesh ou Boko Haram. Boko Haram, 100% de ses armes sont financées par l'esclavage des personnes qu'ils prennent. Alors la force, dans la force. Daesh, c'est la même chose. Ils ont plusieurs revenus, mais notamment, ils se financent avec de la prostitution. Une fois qu'on a compris ça, on peut prendre des mesures. Mais il faut que tout le monde accepte l'idée que c'est un problème ambitieux, parce que la pauvreté ne va pas disparaître demain matin.
Parmi les freins, il y a aussi les freins culturels. On entend, notamment en Afrique, vous le savez mieux que moi, des pratiques de promesses, de remboursement de dettes. Dans les Balkans, il semble y avoir une habitude qu'une des filles de la famille se sacrifie pour aider l'ensemble de la famille. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, alors c'est-à-dire qu'en Afrique et notamment au Nigeria, vous avez un phénomène supplémentaire qui est l'emprise magique. Parce que vous avez des sectes qui utilisent ce qu'on appelle le juju, c'est-à-dire c'est une forme de vaudou tout simplement qui terrorise littéralement. Au début on sourit en France quand on voit ça, et puis quand vous voyez comment ça se passe, on sourit plus, parce qu'en fait le juju c'est une manière de convaincre la victime qu'elle n'a aucun choix et que ce sera le malheur sur sa famille si elle ne se prête pas à l'exploitation. Et dans les Balkans vous avez l'emprise clanique, lorsque vous mariez vos enfants à 7 ou 8 ans. Et vous avez les familles qui sont dans une telle situation de dépendance économique qu'elles préfèrent faire comme si c'était pas aussi grave que ça. Et donc, toucher de l'argent tout de suite, ou en tout cas espérer en toucher grâce à l'un d'entre eux, là, généralement une fille la plus jeune. D'ailleurs, une des menaces les plus efficaces faites à ces jeunes femmes, qu'elles soient afghanes, qu'elles soient nigérianes, qu'elles soient roumaines, c'est si tu n'es pas coopérative, c'est ta petite sœur qui sera la suivante. Donc vous avez ces phénomènes, le fait que les trafiquants encore favorisent les grossesses de ces jeunes femmes, parce que dès qu'elles ont donné naissance, l'enfant est récupéré par le gang, le clan, et c'est une pression d'une force extraordinaire pour que ces jeunes femmes continuent de subir les 15 à 30 rapports sexuels par jour qui permettent de gagner autant d'argent quand on est trafiquant.
Comment on peut faire à la justice et la police si on a l'impression que c'est sans fin, dès qu'on ferme quelque chose, ça rouvre ailleurs, dès qu'on démantèle un réseau, il y en a un autre qui prend sa place ?
Moi, je ne crois pas à l'éradication. Par contre, je pense qu'on peut gâcher les profits. Il faut montrer qu'on n'est pas une terre hospitalière pour ce type de trafic. Et donc, en fait, il faut qu'on puisse à la fois frapper plus fort les trafiquants quand on les a arrêtés et identifiés, et le dire. Parce qu'on condamne quand même pas loin de 500 personnes par an pour ce genre de choses, ce qui n'est pas rien. L'idée, c'est de faire comme en Suède, c'est de rendre la France un marché mort pour les trafiquants.
C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Anne Lioro, assistée de Marion Philippe et Zora Bensmaili, mixage Manuel Couturier. Dans un instant, c'est le journal de 10h sur France Inter. Bon dimanche.
your eyes while you pray. God don't take you for a ride while you're screaming hallelujah. Hey, caution, my friend.